Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour.
À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, nous serons en ligne avec une experte de l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, basée à Barcelone. Avec elle, nous parlerons de la mise en place du premier mécanisme de suivi régional sur l'égalité des genres. Une opération qui permettra de fournir des données scientifiques pour construire les politiques publiques en la matière. Algérie-France, la mémoire en question. Après la remise du rapport Stora au président français, la politologue algérienne Louisa Driss Aït Amadouche nous explique comment ce texte a été accueilli dans son pays, avec une très grande réserve, semble-t-il. Vous pourrez réécouter ce 544e numéro d'Orient Hebdo sur notre site www.rfi.fr ou en podcast avec notre application Pure Radio. Vous pouvez vous abonner et nous noter, alors n'hésitez pas.
Amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste.
Bonjour Anna Doran-Gritchia.
Bonjour Eric Bataillon.
Experte sur la question du genre à l'UPM, l'Union pour la Méditerranée. Vous êtes basée à Barcelone. Les 42 États membres de l'UPM ont approuvé et lancé en novembre dernier le premier mécanisme régional pour évaluer les progrès en matière d'égalité des sexes. Alors il y a 20 indicateurs d'évaluation dans 4 domaines prioritaires. Anna Doran-Gritchia, quels sont ces 4 domaines qui vous semblent prioritaires ?
Dans le cadre de la déclaration ministérielle de 2017, les 43, maintenant 42 pays membres de l'Union pour la Méditerranée ont identifié ces 4 thématiques d'intervention prioritaires qui sont les leadership, autonomisation économique des femmes, la violence contre les femmes et les stéréotypes.
Et dans chacun de ces domaines prioritaires, vous avez défini des indicateurs précis ?
Tout à fait. On a une batterie de 20 indicateurs et 37 sous-indicateurs pour avoir des données qui seront désagrégées tant au niveau du sexe et du genre, mais aussi, par exemple, pour certains indicateurs, au niveau du statut de migrant ou de disabilité des personnes. Donc, il y a un niveau un peu plus détaillé par rapport à ça et on a une, si vous voulez, couverture un peu différente. Donc, on a, par exemple, 3 sur la partie Women in Leadership, mais on en a 10 sur la partie violence contre les femmes.
Justement, pourquoi y en a-t-il plus dans cette partie de la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles que, par exemple, dans la lutte pour les stéréotypes sexistes, où il n'y en a que 3?
Parce que lorsque la décision a été prise au niveau des États membres, il y a eu une claire exigence de la part des pays de mieux définir des typologie possible des violences contre les femmes et les filles, qui peut être de point de vue sexuel, mais il peut y avoir aussi au niveau de, par exemple, molestie sur l'emploi, dans les postes de travail, ou aussi via Internet. Donc, il voulait préciser et spécifier la différente typologie de formes de violence contre les femmes. Et ces indicateurs sont en ligne avec les indicateurs de développement durable de l'agenda 2030 établi par les Nations Unies et adopté aussi au niveau de l'Union européenne.
Mais l'approbation de ces indicateurs et aussi de ces 4 domaines prioritaires a fait l'objet d'un consensus entre les 43 et puis 42 pays ?
Tout à fait. Il y a eu un processus qui a duré un an et demi, dans lequel tous les pays membres ont eu la possibilité de proposer leurs indicateurs, qui bien sûr ne sont pas inventés dans les sens qui font référence aux standards internationaux. Et tout le monde a eu la possibilité de commenter ou de proposer une formulation différente. Ça, par contre, ça ne va pas changer l'effet que le travail de suivi doit tenir en compte des spécificités de chaque pays. Il y a des cas, par exemple, dans lesquels l'utilisation d'une formulation telle que travail informel n'est pas applicable dans certains pays. Donc, le travail de suivi doit prendre en charge ces différences, aussi au niveau tant de l'Union européenne que des pays de la Méditerranée.
Quel est l'objectif de ce mécanisme que vous mettez en place et surtout, Qui va se charger de le mettre en œuvre?
C'est un travail conjoint de la part des 42 pays. C'est un exercice volontaire, donc ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Mais de l'autre côté, il y a cet engagement politique pour mettre en place un système qui doit suivre s'il y a des progrès faits pour atteindre l'objectif 2030 d'égalité des genres. Objectif qui est bien loin d'être atteint, malheureusement, tant au niveau européen que de la Méditerranée. Et l'impact du Covid n'a pas aidé à ce niveau-là, malheureusement. Et cet exercice prévoit l'effet de rédiger un rapport sur les données statistiques qui sont disponibles pour améliorer la situation des femmes dans les quatre thématiques prioritaires. Et de l'autre côté, d'aider à formuler deux recommandations politiques qui seront adoptées en 2022 par les 42 pays. Ça, c'est l'objectif. Et c'est un travail conjoint des pays avec leurs ministères et leurs institutions nationales statistiques, avec l'appui et la coordination de l'Union pour la Méditerranée.
Et donc, c'est l'Union pour la Méditerranée qui se charge de faire le suivi de cette mise en place des mécanismes dans les différents pays ?
Exactement, exactement. C'est-à-dire que nous, on met à disposition un rapport au niveau régional qui à ce jour manque. Il y a des données au niveau mondial, des données au niveau des pays de l'Union européenne, mais pas au niveau régional. Donc c'est ça qu'on va offrir aux pays, mais de l'autre côté, faire un parcours sur les moyens long terme. Cette année, on va lancer cet exercice sur 6 parmi les 20 indicateurs, mais c'est un exercice qu'on va répéter chaque 2 ans pour assurer ses suivis. Parce que ce que le Covid, d'un côté, a mis en lumière, c'est l'effet que le manque de données, c'est déjà une faiblesse. Et sans avoir des données, on ne peut pas ni inclure la dimension genre dans les politiques sectorielles, ni avoir des politiques ciblées pour atteindre l'égalité des femmes.
Vous nous avez dit qu'il s'agissait d'un mécanisme régional. Est-ce que cela veut dire qu'il devra s'appliquer dans l'ensemble des pays au sud, comme au nord de la Méditerranée ?
Comme je disais tout à l'heure, c'est un exercice volontaire, mais pour les pays qui s'engagent à le mettre en place, oui. Il n'y aura pas de différence dans l'approche méthodologique, dans la typologie des données utilisées et dans les recommandations politiques. Bien sûr, l'application peut changer en tenant en compte la situation spécifique de chaque pays. Mais l'approche, c'est pour avoir un système de suivi et une mise en œuvre au niveau régional.
On ne risque pas d'avoir une dichotomie entre ce qui se passe au sud de la Méditerranée, la mise en place plus laborieuse de ces thématiques par rapport à certains pays du Nord ?
Non, en réalité non, pour une question pratique aussi, pour le fait qu'en réalité, les politiques nationales de chaque pays sont vraiment adaptées aux exigences, aux cadres légaux, aux politiques mises en œuvre. Mais, je vous fais un exemple, dans la période avril 2020, octobre 2020, donc en plein épidémie, il y a eu beaucoup de pays de la zone sud de la Méditerranée qui ont mis en place des mécanismes, par exemple, de protection des femmes contre la violence, qui étaient beaucoup plus, si vous voulez, poussés par rapport à certains pays de l'Union européenne. Donc, il n'y a pas toujours une équivalence nord plus avancée et sud avec plus de problématiques, pour dire ainsi. Donc, il y a des cas spécifiques sur lesquels il n'y a pas cette dichotomie en réalité.
D'accord. Demain, c'est le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Anna Dorangetia, ce mécanisme s'inscrit-il dans cette volonté de soutenir l'égalité des droits entre les sexes ?
Tout à fait. Dans l'agenda de l'Union pour la Méditerranée, tant au niveau du dialogue politique, tant au niveau des projets qui sont soutenus par l'Union pour la Méditerranée, l'égalité des genres, c'est un des objectifs principaux. D'ailleurs, a été confirmé dans les programmes de travail pour 2021 et ça a été aussi repris dans la nouvelle agenda de l'Union européenne des coopérations avec les pays du voisinage dans la zone sud de la Méditerranée.
Lors de la conférence Women for Mediterranean de novembre dernier, il était beaucoup question de la pandémie du coronavirus et pour cause. Les femmes ont-elles été en pointe dans la gestion de cette crise sanitaire ?
En réalité, ça c'est une des dichotomies qui a été mise en lumière par la pandémie. Parce que d'un côté, plus de 70% de la force du travail dans les secteurs sanitaires est représentée par des femmes. Mais les femmes qui ont géré en première ligne avec des positions de leadership étaient moins du 30%. Donc il y a vraiment une différence au niveau du rôle tant dans les marchés du travail, qu'ils soient dans la santé, mais qu'ils soient aussi dans les secteurs qui sont les plus touchés par la crise, mais de l'autre côté, la possibilité d'intervenir au niveau de la programmation des politiques publiques qui ne respectent pas ces rôles prioritaires des femmes dans ce type de marché.
Merci Anna Doran-Grecia.
Merci à vous Eric Bataillon.
Experte sur la question du genre à l'UPM, l'Union pour la Méditerranée.
Orient Hebdo sur RFI.
Bonjour Louisa Drissaït Amadouche.
Bonjour Eric.
Nous sommes en ligne avec vous depuis Alger, où vous êtes professeur à la faculté des sciences politiques et des relations internationales de l'université Alger 3. Merci de nous accorder cet entretien. Louisa, le 20 janvier dernier, l'historien français Benjamin Stora remettait son rapport au président Emmanuel Macron, président français, en recommandant la mise en place d'une commission mémoire et vérité composée de différentes personnalités engagées dans le dialogue franco-algérien, comme par exemple Fadila Khattabi, la présidente du groupe Amitié France-Algérie de l'Assemblée nationale, ou encore Karim Amelal, le délégué interministériel de la Méditerranée. Quel accueil ce rapport a-t-il reçu en Algérie ?
J'allais dire un peu le même accueil reçu en France. Assez mauvais, pour ne pas dire très mauvais, et ce pour plusieurs raisons, à ce que j'ai pu observer. Déjà, il y a le fait que l'opinion publique, en tout cas je dirais plutôt la classe politique, parce que l'opinion publique ne s'est pas vraiment intéressée à ce rapport. Donc la classe politique, plus ou moins proche du pouvoir politique, a très mal accueilli ce rapport, considérant qu'il n'enregistrait aucune avancée sur les revendications algériennes, notamment en rapport aux excuses liées à la colonisation, aux crimes commis pendant la colonisation. Et donc du côté algérien, il n'y a pas réellement d'avancée. Il n'y a pas eu non plus, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, un rapport algérien qui serait le pendant du rapport Stora. Et puis il y a aussi un silence quasi religieux des autorités politiques. Et c'est assez surprenant parce qu'il apparaissait clair que ce projet de réconciliation historique entre les deux pays était un processus qui devait être mené par les deux pays de façon conjointe et de façon coordonnée. La publication du rapport Stora sans rapport du côté algérien était déjà un signe que quelque chose n'allait pas. Je pense que au-delà de la commission proposée par Stora et au-delà de son rapport, la question de la réconciliation ou de l'apaisement des mémoires entre l'Algérie et le Maroc est une question qui va exiger non pas l'effort d'un président, mais de toute une génération. Il peut commencer aujourd'hui, mais il ne s'achèvera certainement pas aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a encore, bon, j'ai parlé du côté algérien, mais je peux très facilement extrapoler sur le côté français aussi, une surexploitation, surpolitisation, suridéologisation de la question mémorielle entre les deux pays. Et il y a clairement, côté algérien, une volonté de maintenir le statu quo de façon à ce que la mémoire soit encore une source de légitimité aux gouvernants qui sont aujourd'hui en crise de légitimité comme jamais auparavant. Et je pense, sans risque de me tromper très lourdement, que du côté français, il y a aussi cette instrumentalisation à des fins politiciennes. Donc nous sommes dans une situation de blocage bilatéral, j'allais dire, parce qu'en fait, la mémoire est toujours, des deux côtés de la Méditerranée, prisonnière des politiques, et les historiens, les scientifiques n'ont pas beaucoup leur mot à dire sur cette question-là.
Oui, de son côté, l'Algérie, rappelons-le, a lancé le 1er novembre dernier, date symbolique, sa propre chaîne de télévision, La Mémoire, dédiée à l'histoire de l'Algérie. Lancement officiel d'ailleurs par le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Diriez-vous aujourd'hui qu'il y a une nouvelle bataille d'Alger, celle de la mémoire ?
Non, je ne dirais pas que c'est une nouvelle bataille d'Alger, parce que bon, la bataille d'Alger, c'est quelque chose de très particulier, oui, oui. Et je ne suis pas partisane d'extrapoler ou de coller cette particularité à n'importe quel événement. Il y a, côté algérien, une sorte de compétition entre ceux qui veulent préserver l'histoire comme un butin de guerre, là pour le coup, et un butin utilisé à des fins de perpétuer une légitimité qui est aujourd'hui en crise. Donc ce sont les gouvernants actuels qui tentent de résister en ayant recours à l'histoire. Et il y a parallèlement à ça des Algériens, et on l'a parfaitement observé dans le soulèvement populaire, des Algériens qui ont décidé de se réapproprier leur histoire, de se réapproprier les héros de leur histoire et de l'écrire avec les mots d'aujourd'hui et avec les revendications d'aujourd'hui. Lorsque dans le Hirak, on entend, on voit, on lit la nécessité de revenir à la primauté du politique sur le militaire, lorsqu'on voit des héros de guerre qui ont marqué la guerre de libération être honorés et dont la mémoire revient aujourd'hui avec force, c'est une véritable réappropriation de l'histoire par la génération d'aujourd'hui qui la lit, qui la vit et qui la projette dans l'avenir en refusant que cette histoire soit prisonnière d'une classe politique dirigeante qui, je le répète, est aujourd'hui en crise de légitimité.
Vous êtes donc plutôt optimiste pour l'Algérie aujourd'hui, aussi bien d'ailleurs sur le plan de la politique intérieure que de ses relations avec notamment la France.
Écoutez, je ne sais pas si je suis optimiste, mais je suis volontaire. Et je pense qu'il y a toute une génération, et même plusieurs générations aujourd'hui, qui sont conscientes que le statu quo n'est plus tenable, qu'il non seulement n'est plus tenable, mais qu'il est dangereux, et qu'il y va de l'intérêt de tous, et quand je dis tous, pour le coup, je parle de dirigeants, de gouvernants et gouvernés, il est dans l'intérêt de tous de ne pas perpétuer une situation qui risque de s'aggraver et qui risque d'avoir des conséquences néfastes pour tout le monde. Donc j'ai plutôt confiance en la rationalité des gouvernants algériens qui, fort des expériences passées, ne commettront pas les mêmes erreurs que par le passé et verront dans la nécessité de répondre aux revendications du soulèvement populaire la meilleure des solutions pour tous. Et j'imagine que de l'autre côté de la Méditerranée, les dirigeants français et autres auront la même intelligence de comprendre que ce qui était valable pendant 50 ans ne l'est plus, que les choses ont changé, que les mentalités ont changé, que les aspirations des peuples, notamment algériens, à la liberté, à la démocratie, sont une aspiration non seulement légitime, mais nécessaire et qui s'inscrivent dans le temps. Et que vouloir perpétuer une situation finie, c'est vouloir finir avec cette situation.
Merci Louise Adrissa et Tamadouche.
Merci Eric.
La politologue Louisa Adrissa et Tamadouche dans Orient Hebdo ce dimanche. Vous avez reconnu la voix de France Gall dans l'extrait musical du début d'émission et son titre Résiste. Orient Hebdo réalisé chaque semaine par Mathias Golchani, qu'il en soit remercié. On se retrouve avec plaisir samedi prochain et on se quitte avec la voix de Céleste. Love is back.
Glass full, so I did, and I saw you.
Le 8 mars, célébrons les droits des femmes.